Profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui est diplômé en philosophie et ancien élève d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Il est l'auteur d'ouvrages sur Spinoza et d'adaptations de textes classiques destinés à la jeunesse, du Magicien d'Oz autour du monde en 80 jours. Il a publié une biographie de Casanova et vient de faire paraître un livre intitulé « À l'école de la vie », qui examine la dimension érotique de l'acte même d'apprendre. Enfin, vous avez peut-être croisé, par hasard ou intentionnellement, son petit livre jaune au titre inoubliable « Que faire des cons ?»
Je vous ai apporté les photos de mes plus belles pièces. La tour Eiffel.
Superbe.
8 mois d'effort.
Ça se voit. Et vous faites ça le soir, après votre travail?
Le soir et pendant les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, quoi.
Et vous êtes marié?
Oui. Enfin, non. Tancarville.
Magnifique. Mais vous êtes marié, oui ou non?
C'est-à-dire que ma femme est partie.
Ah bon?
Avec un ami à moi.
Ça arrive, ces choses-là.
Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête.
Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous.
Écoutez, moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con.
Mon Dieu.
Alors?
Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con.
Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile.
Et où peut-on le rencontrer, ce garçon?
Pourquoi vous aimez la planche à voile?
Mais énormément, je suis passionné de planche à voile.
Alors vous allez bien vous entendre avec lui, il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle Ducon. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, pas à Ducon.
Bonjour Maxime Robert.
Bonjour Adèle Vendrell.
Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie.
Merci.
Vous avez une réponse à la question « Que faire des cons ?»
Bien sûr, il y a une réponse qui est un tout petit peu plus compliquée que ce qu'on s'imagine. Il ne faut pas les envoyer sur la Lune, ça suffira pas. Il faut les retrouver en soi-même pour travailler sur les interactions.
En soi-même, nous sommes tous des cons.
Au moment même où vous identifiez un con, il y en a un qui est en train de naître en vous. Vous perdez votre empathie, vous perdez votre volonté de comprendre, donc vous êtes en train de devenir un con ou une conne. Il faut lutter contre cette tendance et trouver des techniques pour faire en sorte de retrouver le chemin du cœur, retrouver le chemin de l'intelligence, entendu comme une disposition à comprendre.
Mais c'est quoi un con ?
C'est n'importe quoi qui vous irrite et qui touche en quelque sorte vos brèches, c'est-à-dire vos fêlures, vos blessures, vos points d'incompréhension ou d'intolérance, et qui va faire que vous réagissez en l'insultant. Ce jugement, qui est un jugement donc qui attribue la connerie à un objet, en l'occurrence en général à un être humain, est complètement orienté par les émotions que l'on ressent soi-même. Quels que soient les fondements objectifs que vous voulez donner à cette émotion, elle reste et elle demeure ce qui s'exprime quand vous émettez ce jugement moral. Comprendre l'émotion, comprendre aussi quelle est la structure du jugement moral, c'est la solution pour répondre à la connerie ambiante, justement en comprenant quel type d'émotion elle soulève et quel type de jugement elle nous impose de faire.
Donc, pour essayer de dépasser la connerie, il faut entretenir une certaine sagesse de nos propres émotions, c'est ça? Il y a une discipline de soi.
Oui, en même temps, ça n'est pas un retour vers soi, c'est l'idée que entre soi et l'autre, en réalité, il y a une continuité. Que cette continuité, elle n'est pas complètement théorique, elle n'est pas dans le ciel de la métaphysique, elle est dans la pratique, encore une fois, des interactions. C'est-à-dire comprendre que la manière dont on réagit vient de l'autre et la manière dont on comprend l'autre vient de soi, ça signifie entrer dans une boucle ou un cycle qui tourne dans un sens ou dans l'autre, vers le conflit ou vers la paix. Et à chaque fois qu'on se ressent, je dirais, attiré par la solution du conflit ou vers la guerre, comme j'appelle, eh bien, il est possible de renverser la quantité d'énergie qu'exprime l'émotion pour, oui, la faire se travailler elle-même, pas comme quelque chose de personnel et d'intime, mais comme quelque chose de partagé qui peut nous réunir.
Et si on a envie de rester un con ?
Si on a envie de rester un con, alors il n'y a pas d'issue. Il faudra que les philosophes, les lecteurs, les lectrices et tous ceux et celles qui nous écoutent s'éloignent et s'unissent pour lutter contre.
On va passer 50 minutes ensemble, Maxime Rovert. On va remonter aux origines de votre rencontre avec la philosophie, interroger vos influences philosophiques et extra-philosophiques, pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts et réfléchir ensemble au rôle du politique, du philosophe dans la cité. Mais avant cela, s'il fallait identifier un terme, un concept autour duquel s'articule votre travail, qui est assez protéiforme, je l'ai rapidement évoqué, on va le voir ensemble ce matin, ce serait sans doute un terme que vous avez déjà employé à plusieurs reprises, qui est celui d'interaction. Est-ce que ça vous vient de votre lecture de Spinoza ? Pourquoi l'interaction est-elle si importante pour vous ?
Oui, à vrai dire, l'interaction, c'est un concept qui a été beaucoup développé par un sociologue qui s'appelle Erwin Goffman, dans les années disons, entre 70 et 90, et qui a donné naissance à ce qu'il appelle l'interactionnisme. L'interactionnisme, c'est une manière d'étudier ce qui naît des échanges entre les personnes et qui ne relève pas de ce qu'étaient les individus auparavant. C'est-à-dire, son principal livre s'appelle « La présentation de soi » et il montre comment la manière dont on se présente ne dépend pas vraiment de ce qu'on est, mais d'interactions avec l'autre qui vont générer en quelque sorte des identités. Sur ces bases, moi, en tant que philosophe, je reprends ce concept d'interaction pour l'étendre, et c'est-à-dire pour lui donner une extension beaucoup plus grande que celle de la simple sociologie des échanges. J'essaie de lui donner une dimension métaphysique qui va nous permettre à la fois de considérer les individus comme en quelque sorte des pelotes d'interaction, donc ça fait en quelque sorte éclater l'unité de l'individu, mais aussi de considérer les phénomènes sociaux comme des interactions parmi d'autres, ce qui nous évite de réduire l'humain à, je dirais, de simples déterminismes. Donc ce concept d'interaction, c'est pas seulement la relation spinoziste ou le rapport, qui est un des grands mots utilisés par Spinoza dans l'éthique et ailleurs, mais c'est une manière de concevoir des causalités circulaires qui sont très difficiles à penser quand on est dans l'abstrait, mais qui sont très faciles à appliquer, comme nous l'avons fait tout à l'heure à propos de la connerie, et comme je le fais dans l'école de la vie à propos des savoirs.
Votre dernier livre, donc.
C'est-à-dire que ça circule, en fait, et que au lieu de se scléroser dans une posture égotique, en se pensant comme l'origine absolue de ses actions, mais aussi au lieu de se laisser complètement démettre de sa responsabilité en vertu de déterminismes de plus grande ampleur, psychologiques ou sociaux, on met ces dimensions hétérogènes de la vie humaine en interaction et on se rend compte que ce qui fait l'humain, c'est justement la complexité d'interaction en interaction. Donc on arrive à un système de plus en plus complexe qui évidemment prend aussi sa source dans la pensée complexe d'Edgar Morin. Enfin, en tout cas, en France, Edgar Morin a été l'un des grands vulgarisateurs de cette pensée complexe, avec des causalités circulaires. Et puis, de notre côté, avec les théories du chaos et tous ceux qui étudient, en fait, des causalités faibles, c'est-à-dire des paramètres qui sont tout petits, mais qui vont avoir des effets géants sur des systèmes très compliqués. Donc, vous voyez qu'on arrive à une vision philosophique qui intègre, je dirais, des recherches sociologiques qui sont très proches du terrain et qui en même temps va exporter le principal concept de ces recherches, qui est l'interaction, vers des terrains nouveaux et qui vont nous permettre de décrire l'humain avec, je dirais, des points de vue totalement nouveaux et conciliant les disciplines.
Est-ce que vous vous présentez comme philosophe, Maxime Rovert ?
Oui, je crois que ceux qui rechignent à se présenter comme philosophes sont souvent des gens modestes qui préfèrent se présenter comme des professeurs de philosophie. Je respecte totalement cette valorisation de l'enseignant et du professeur. En revanche, si moi je me revendique philosophe, c'est parce que dans philosophe, il y a quand même un idéal de sagesse auquel je voudrais qu'on ne renonce pas. Et si vous vous demandez, mais alors qu'est-ce exactement que la sagesse? Je vous dirais un cœur en travail. Et un cœur en travail, en philosophie, ça se fait à partir des concepts. C'est-à-dire que, à mon sens, la production de concepts, ça n'est pas vraiment la finalité du philosophe. C'est sa méthode. Notre méthode, c'est de passer par les concepts. Ce que nous développons, c'est, je dirais, la voie de l'intellect. Mais la voie de l'intellect en elle-même, elle ne s'auto-suffit pas. Sa fonction est à la fois éthique et politique. Autrement dit, elle détermine d'abord des modes de vie. Notre méthode, c'est de passer par une hyper-intellectualisation des problèmes, par ce que j'appelle le travail de l'abstraction. Et une fois dans l'abstrait, nous pouvons travailler à résoudre certaines difficultés devenues conceptuelles, y compris en créant des concepts. pour qu'in fine, ce travail des concepts change notre manière de percevoir le monde, et en changeant notre manière de percevoir, on change aussi notre manière d'y réagir.
Et vous y croyez vraiment, ça? Vous pensez que ça marche? On peut changer notre manière de voir le monde à travers la philosophie?
À vrai dire, je crois en rien, mais j'observe. J'observe des changements en moi, j'observe des changements chez mes étudiants ou mes élèves.
Vous devenez plus sage à mesure que
je m'apaise
à faire de la philosophie?
Bien sûr, on s'aperçoit qu'on arrive à répondre à des émotions ou à laisser passer des émotions ou à comprendre des situations d'une manière tout à fait différente. Toute la difficulté est d'accéder au degré de sophistication adéquate à la complexité des situations.
Mais les émotions ne sont pas forcément un obstacle au travail philosophique.
Au contraire, c'est le charbon du travail philosophique. Et le privilège de la philosophie, c'est de faire en quelque sorte retour sur ce charbon. C'est-à-dire, c'est pas seulement une énergie qui alimente un travail conceptuel, il y a une rétroaction du travail conceptuel sur cette énergie qui fait que ça l'augmente. C'est ça en fait le merveilleux, c'est que la philosophie ne lutte pas contre les émotions, elle s'alimente des émotions pour les transformer en concepts, et le concept à son tour alimente les émotions.
Mais ça a l'air très clair, ça a l'air un chemin à suivre qu'on aurait plutôt envie de parcourir, et pourtant les études de philosophie, la fréquentation des textes de philosophie sont semées d'embûches, de demi-tours, d'impossibilité d'avancer. Il y a quelque chose aussi d'assez chaotique et une grande place laissée au doute dans la pratique de la philosophie.
Ouais, puis même dans la vocation de philosophe, il y a du doute.
Parce que quand vous en parlez, ça paraît très lisse et très beau, et allons-y, alors que c'est quand même très aride aussi, non?
Ben, allons-y, oui, bien sûr, allons-y dans ce désert du concept, dans cette aridité, parce qu'en réalité, on va, comme dans toutes les pratiques et toutes les disciplines un peu exigeantes, on va développer à la fois des savoir-faire et, je dirais, une expérience de vie qui vont être beaucoup plus gratifiantes que cette vie quotidienne à laquelle nous nous complaisons. C'est pour ça que ça vaut la peine de...
C'est pas gratifiante, la vie quotidienne?
Ça vaut la peine de s'arracher, je dirais, à sa manière de vivre socialement déterminée pour faire ce pas de côté qui consiste par exemple en la lecture, qui est une pratique, on s'en rend pas compte, mais c'est une pratique socialement très peu développée. Ça vaut la peine d'être cet être étrange qui passe des heures à lire ou des heures à réfléchir. Ça vaut la peine parce qu'encore une fois, ça c'est gratifiant. Ça retourne dans la vie quotidienne, ça peut faire partie de la vie quotidienne. Ça devrait même orienter la vie de tous, comme c'est pas le cas. J'invite chacun, chacune à faire ce choix pour soi, parce que c'est aussi le moyen de changer la vie des autres.
Parmi les philosophes qui ont compté pour vous, on trouve celui-ci.
Pour mesurer qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, c'est que je crois une sorte d'écart entre la philosophie de parade, la philosophie publique, la télévision, mass-média comme on dit, et puis un désir de philosophie et de lecture philosophique qui se manifeste dans le lieu où la philosophie a lieu, qui est l'enseignement, et spécialement l'enseignement secondaire. Et je crois qu'un écart se fait entre cette philosophie publique et puis l'autre, je ne dis pas la vraie, mais enfin celle qui existe depuis longtemps, qui ne suit pas les modes. Et ce qui est peut-être nouveau, c'est que je ne vois pas pénétrer dans les dissertations de philosophie que je corrige et dans les exposés que j'entends de modes nouvelles et fracassantes.
Dans votre livre « L'école de la vie », Maxime Robert, qui vient de paraître, vous dites de votre professeur de philosophie André Pessel, que nous venons d'entendre, que c'était un homme tout rond, presque aussi large que haut, et à cause de cette particularité, la rue Saint-Jacques s'épuisait, il arrivait toujours dans notre salle soufflant et suant à grosses gouttes. Parvenu à son bureau, il tirait de son veston un mouchoir en tissu élégamment plié, puis il s'en épongeait le visage avec patience et résignation avant de commencer le cours. Après la pause entre deux heures de cours, Pessel nous déclara un jour, sur le ton de la plus grande tendresse, « Vous ne m'intéressez pas. Qui vous êtes, ça n'a aucune importance. Je ne veux pas le savoir. » C'est ça qui vous a transmis de plus cher ?
Il m'a transmis plein de choses, André Pessel. D'abord, il faut que les auditrices et les auditeurs le sachent. Là, je suis totalement bouleversé d'avoir entendu sa voix. Je pense que ça faisait 30 ans que ça m'était pas arrivé, ou 20 ans. Et il est décédé en 2019, donc il y a aussi cette part d'émotion d'entendre la voix des morts, c'est la magie de la radio. Mais la magie de l'enseignement, c'est que Pessel était quelqu'un qui n'acceptait pas, je dirais, les fixations personnelles, individuelles, qui font que on considère quelqu'un comme son maître. Et lui, qui était quelqu'un de très très inspirant, qui était donc prof en Cagne à l'époque où je l'ai rencontré, déjouer en fait l'admiration de ses élèves en refusant systématiquement d'entrer dans un rapport personnelle pour créer quelque chose qui était un échange purement philosophique. Et c'est vrai que en écrivant L'école de la vie, qui est donc un livre consacré à ce que j'appelle les interactions productrices de savoir, j'ai voulu mettre André Pessel en valeur comme quelqu'un qui était capable de faire circuler du savoir, faire circuler du doute, faire circuler des hypothèses, des procédures, bref, tout ce qui compose la philosophie, en réalité aussi les autres savoirs, d'une manière qui ne nous permettait pas de rester passif en face de ce qu'il nous enseignait. Et ce qui a créé, en fait, des générations de vocations parmi les élèves et les anciens élèves d'André Pessel, c'était précisément cette manière de nous passer quelque chose sans montrer que ça venait de lui, en se déstabilisant soi-même, en perdant la posture du grand maître et en systématiquement soulignant cette chose qu'il résumait d'une phrase. L'homme est le médiateur de sa propre opérativité. Alors quand on a 20 ans, l'homme est le médiateur de sa propre opérativité, c'est une phrase qu'on comprend pas bien. Et puis, ça m'a pris 20 ans de méditation et de réflexion pour comprendre qu'au fond, ce qu'il voulait dire, c'est que quelque chose nous traverse, dont nous sommes également les acteurs, c'est-à-dire nous n'en sommes pas les récepteurs passifs, mais nous n'en sommes pas non plus l'origine. Et ceci, que moi j'appelle une interaction, est de beaucoup plus grande ampleur qu'on s'imagine. Ça n'est ni individuel, ni, je dirais, seulement social. C'est encore plus grand que le social. C'est ce que moi j'appelle cosmique, pas seulement parce que ça vient des étoiles, mais aussi parce que ce sont des procédures d'organisation du monde, c'est-à-dire de transformation du chaos en cosmos. Donc fabriquer du cosmos, faire en sorte que les choses s'articulent, c'est l'un des objectifs de la philosophie.
Mais alors là, la tâche est immense pour un professeur, s'il s'agit de fabriquer du cosmos à chaque cours.
Mais c'est ça qu'on fait, c'est ça que font mes collègues dans toutes les disciplines. Finalement, une salle de classe, ça n'est rien d'autre que des individus qui, comme je l'ai dit, sont des pelotes d'interactions qui arrivent comme ça tout en désordre et vous les mettez ensemble et ça fait des milliards d'interactions qui se mettent en interférence. Et le professeur ou la professeure sont des êtres qui, par un certain nombre de stratégies, vont attirer ces pelotes d'interaction autour de certains problèmes. Leur attention va se mettre à graviter autour de ces problèmes, fascinée par ces problèmes, mais aussi rassurée par la présence du prof. Et cette attitude, qui est aussi partagée entre les élèves, qui passe pas seulement du prof aux élèves, mais qui est partagée entre les élèves, va faire circuler des hypothèses, des procédures, d'éventuelles solutions aux problèmes auxquels on s'intéresse, qui vont petit à petit s'agglomérer aux interactions préexistantes. Et c'est comme ça qu'on apprend.
Avec une dimension érotique. C'est ce que vous dites dans votre livre. Il y a un érotisme ou une érotique de l'acte d'apprendre, vous dites.
Voilà. L'idée, c'est de désarticuler l'association immédiate entre l'érotique et le sexuel. C'est-à-dire, c'est une érotique qui n'est pas du tout sexuelle. C'est une érotique au sens de Platon, qui est un art du désir. Et l'art du désir, finalement, c'est aussi un art de l'attention. Attirer l'attention et faire en sorte que les désirs, je dirais, les désirs tous azimuts qu'on a à tout moment, qui sont d'ordre physiologique, qui sont d'ordre symbolique, qui sont d'ordre affectif, tous ces désirs convergent à un moment, comme je l'ai dit, vers un problème. L'érotique des professeurs, ça n'est pas du tout une manière de séduire les élèves, c'est une manière, en quelque sorte, de séduire les interactions. Autant les interactions, encore une fois, affectives, émotionnelles, d'histoire personnelle, psychologique, que les élèves apportent en classe, que les interactions formalisées, que les disciplines structurent. Faire en sorte, en fait, que ces deux types d'interactions, et en réalité il y en a beaucoup plus, que ces milliards d'interactions se séduisent les unes les autres pour entrer en synergie. Encore une fois, ça n'est pas du tout une érotique d'individu à individu, c'est une érotique d'interaction à interaction pour faire en sorte que ce qui définit les individus, les tristesses, les problèmes à la maison, les espoirs, trouvent à se reconnaître dans des procédures qui, a priori, n'ont rien à voir, les mathématiques, l'histoire, la philosophie.
Même en admettant que certaines étudiantes puissent avoir envie de me séduire, c'est une option qui leur appartient, il n'y a donc pas d'abord une chaleur potentiellement sexuelle, puis une froideur destinée à conjurer une tentation que nous devrions faire taire. C'est plutôt l'inverse. Tant que mes étudiantes se figurent une relation de pouvoir susceptible d'être sexualisée, que cette sexualisation soit crainte ou désirée, elles mettent du rouge à lèvres. Une fois que notre interaction fonctionne, elles n'en ont plus besoin. Ce que vous décrivez là, c'est le passage d'une sexualité à une érotisation, c'est ça ?
Oui, en fait, je voulais lutter contre l'idée qui vient de Freud, mais qui remonte même à Platon, que nous aurions d'abord des instincts animaux, qu'il faudrait brider, pour ensuite pouvoir accéder à des dimensions plus spirituelles, plus intellectuelles, et toujours considérées comme immatérielles. Hein. Freud conçoit ça sur le mode de la frustration, il faut frustrer la pulsion animale pour ensuite pouvoir la sublimer. Platon était plus doux, lui il pensait une sorte d'ascension progressive qu'il décrit dans Le Banquet, vers, je dirais, la contemplation de l'immatériel. Tout le livre que je viens d'écrire, L'école de la vie, est consacré à remplacer ces modèles par un autre qui consiste à dire non, il n'y a pas de pulsion sexuelle première, primordiale, animale. Au contraire, il y a plutôt des interactions corporelles qui ne sont pas sexuelles dans leur principe et qui peuvent se formaliser de diverses manières. La sexualité en est une, elle est d'ailleurs exclue quand on travaille sérieusement, quand on fait sérieusement de la philosophie, on est complètement consacré au concept.
Pourquoi pas ? Pourquoi ?
Parce que c'est très difficile de faire du concept et de faire l'amour en même temps. Par ailleurs, quand on est à l'école, et je dirais à tous les niveaux, c'est-à-dire à l'université ou au lycée, on évite d'entrer dans ces relations sexualisées parce qu'il y a des relations de pouvoir qui permettraient à des prédateurs de s'emparer de proies. Il faut donc accepter de mettre cette sexualisation de côté. J'explique d'ailleurs qu'elle est le fruit d'un très grand conflit entre des institutions normatives. Donc, je dirais la sexualité n'est plus, comme elle a été à une certaine époque de l'humanité, un facteur d'émancipation. Elle est plutôt l'une des procédures mises en place par des pouvoirs qui luttent entre eux pour le contrôle de nos corps. J'essaye au contraire de montrer qu'une autre conception du corps peut avoir une fonction émancipatrice. Il suffit simplement d'être attentif à ce qui, en nous, je dirais, se satisfait, y compris dans des rapports très intellectualisés. Et ces rapports intellectualisés, ils ne font pas taire le corps comme on le croit aujourd'hui parce que, voilà, dans nos écoles et dans nos institutions d'enseignement, on garde les élèves immobiles, silencieux, contraints en fait à des attitudes corporelles qui sont vraiment très tournées vers le silence et l'annihilation du corps. Mais en réalité, même dans ces conditions, il est possible de montrer que leur corps est impliqué dans le savoir. Que quand on aime son prof ou qu'on aime ses élèves, quand on est impliqué avec ses camarades dans tel ou tel projet, en réalité, c'est du corps. Mais ça n'est pas du sexuel qui s'est transformé. C'est du corps, c'est le corps le plus fondamental, c'est le corps le plus vivant, qui est encore une fois fait d'interactions, qui met en lien la physiologie, la symbolique, l'histoire personnelle, les mouvements sociaux, et qui à un moment brasse tout ça pour engager toute son énergie dans telle ou telle direction. Encore une fois, dans la vie des adultes, l'une de ces directions, l'une de ces formalisations, c'est la sexualité. Mais à l'école et dans les institutions d'enseignement, cette sexualité, elle est mise de côté, et on travaille à faire en sorte que les interactions s'orientent vers la construction de savoir. Et c'est ça justement l'érotique des professeurs. Elle consiste pas du tout à utiliser le sexuel pour, je dirais, tromper les élèves et les amener vers le savoir. Elle consiste à revenir à un aspect très fondamental du corps pour petit à petit utiliser l'aspect récursif de ses fonctions et faire en sorte qu'elle se travaille et s'agglomère, pour ainsi dire, à des procédures de résolution en mathématiques, d'analyse en histoire, et ainsi de suite.
Il peut y avoir quelque chose d'effrayant à entendre ce que vous dites, comme s'il était le rôle du professeur de fabriquer une sorte d'emprise sur l'étudiant ou l'étudiante intellectuelle ou corporelle, où il y a que cette relation de séduction, vous parlez d'amour, il y a quelque chose aussi de, oui, peut-être d'effrayant de se dire que tout enseignement est aussi une histoire d'amour, aussi platonique soit-elle.
Alors c'est terrifiant, mais l'amour est terrifiant, et bien sûr que les humains confrontés les uns aux autres en réalité, sont en situation de risque. Nous risquons de nous blesser et de fait nous blessons. Nous risquons de déraper et de fait nous dérapons. Alors, quand on parle d'amour, il y a une très grande difficulté qui est aujourd'hui de considérer que dans le milieu professionnel, il faut se montrer neutre, il faut se montrer froid. Et quand j'enseignais en lycée, je me souviens qu'en salle des profs, il y avait beaucoup d'émotions qui venaient se déverser, soit parce que les profs aimaient trop leurs élèves et le vivaient mal, c'est-à-dire partager ensemble la difficulté que c'est de s'impliquer, se sentir impliqué, parce qu'il y a un élève en difficulté, parce qu'il y a une élève qui est impliquée et que donc on s'implique à son tour. Donc il y avait une très grande difficulté à vivre cette amour, et de l'autre côté, très grande difficulté à faire face à des émotions beaucoup plus négatives, de révolte, de rejet, même de haine. Et on peut ressentir aussi en tant que prof, justement, le rejet des élèves. Il me semble que tout ce chaos d'émotions, à un moment, il faut le regarder en face. Et ce que j'essaye de montrer dans l'école de la vie, c'est que loin que les professeurs doivent se montrer neutres face à leurs élèves, il faut au contraire qu'ils comprennent que les savoirs n'émergent qu'à partir d'interactions heureuses. Le nom propre de ces interactions heureuses, c'est l'amour. C'est un amour qui est structurellement différent d'un amour conjugal, d'un amour entre amis, d'un amour... C'est un amour très spécifique, mais c'est de l'amour, ça n'est pas un mal de le ressentir. Au contraire, s'impliquer affectivement, c'est le secret d'enseigner et c'est le secret d'apprendre.
Si on s'approche de votre cœur, on entend ceci.
A semelhança da criatura com Deus é tão imperfeita que não chega a ser um gênero comum, pois certos nomes que implicam relação de Deus com a criatura dele se predicam temporariamente e não são eternos, não são eternos e não são eternos. Deve-se saber que quem ensinou que a relação não é uma realidade da natureza.
Maxime Rover, vous avez enseigné 5 ans au Brésil à l'Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro de 2015 à 2019 et cette chanson vous met en joie visiblement. Pourquoi ?
Ouais, c'est une chanson, c'est magique, c'est Georges Ben qui à une certaine époque de sa vie quand il était petit en fait a étudié dans un très bon collège de Rio, le collège São Bento et dans cette chanson en fait, il lit, il chante un passage de la Somme théologique de Thomas d'Aquin. Et donc, c'est une époque où il utilise beaucoup le collage dans ses chansons. Et donc là, la chanson s'appelle Assim Falou Santo Tomás de Aquino. Il utilise en fait le nom du Ainsi parlait Zarathoustra pour dire Ainsi parlait Saint Thomas d'Aquin. Et on l'entend dire des choses d'une haute métaphysique. Là, en l'occurrence, il est en train de chanter que la ressemblance entre la créature et le créateur n'est pas suffisante pour qu'il y ait entre eux une communauté de genre. Et le Brésil, c'est ça. C'est-à-dire que le Brésil, il y a une pratique de la philosophie qui est totalement libérée, je dirais, de ces cadres institutionnels qui sont encore peu développés et qui, du coup, donnent lieu à une sorte de jeu que je trouve à la fois jouissif et libérateur.
Thomas d'Aquino, Senhor, tu tens tido feito o nosso refúgio. Senhor, tu tens tido feito o nosso refúgio. Senhor, tu tens tido feito o nosso refúgio.
Et pourquoi être allé enseigner au Brésil, Maxime Rover ? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas que vous ne trouviez pas en France ?
D'abord, le Brésil m'a appelé, en quelque sorte, parce que Spinoza est un auteur là-bas très étudié pour des raisons politiques. Un peu comme en Turquie, comme en Argentine également, Spinoza c'est un auteur qui a une actualité particulière dans le monde d'aujourd'hui, parce que un certain nombre de mouvements de gauche qui veulent par exemple défendre les minorités indiennes, dans le cas du Brésil, ou afro-descendantes, s'inspirent de Spinoza et de sa pensée de la multitude pour concevoir des solutions politiques aux situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc le Brésil, c'est une terre de spinozisme extrêmement riche, et là-bas j'ai trouvé non seulement une tradition qui maintenant arrive à sa deuxième génération de commentateurs de Spinoza, mais aussi, je dirais, une urgence à faire de la philosophie parce que les situations au Brésil comme dans d'autres pays du monde sont extrêmement compliquées, extrêmement imbriquées, et que une théorie politique toute faite ne fonctionne pas. Donc il faut fabriquer de nouveaux concepts, il faut puiser dans les philosophes qui ont mis en place des concepts qui permettent, je dirais, d'avoir une première boîte à outils. Et encore une fois, entre Spinoza et le Brésil, il y a une rencontre qui est forte, qui est liée encore une fois à ces communautés, à la présence donc d'afro-descendants, d'indiens, de descendants des portugais, d'italiens, d'allemands. Et donc toutes ces communautés ont des difficultés à faire un pays dans une situation d'inégalité sociale très forte. Spinoza a été pour eux la réponse. En retour, les étudiants m'ont complètement, m'ont appris à avoir cette souplesse qu'ont les Brésiliens, à être inclusif aussi, alors que en bon français, j'ai été formé dans un système qui est fondé sur l'exclusion. Vous n'êtes pas bon, vous êtes exclu. Vous arrivez en retard, vous êtes exclu. Vous êtes un peu étrange, vous êtes exclu. Au Brésil, c'était tout l'inverse. Ceux qui arrivent en retard, ceux qui dorment en cours, ceux qui regardent leur téléphone, ceux qui arrivent une heure après le début du cours et s'en vont un quart d'heure après être entrés, tout cela reste. On cherche à comprendre ce qui se passe, et au fond, c'est de cette manière que mes élèves sont devenus mes maîtres.
Vous faites le lien entre Brésil et Spinoza. Comment avez-vous rencontré Spinoza et pourquoi a-t-il été si important pour vous?
Alors, Spinoza, c'est un auteur très difficile. Il est rare qu'on rencontre Spinoza, contrairement à beaucoup d'autres auteurs, par des hasards de librairie. C'est difficile de prendre l'éthique alors qu'on est tout seul dans la librairie, de l'amener chez soi et de s'en émerveiller. Il faut souvent un passeur. J'ai eu plusieurs passeurs dans ma vie, en fait, principalement André Pessel, qui était donc le professeur que nous avons entendu tout à l'heure, et qui était un grand lecteur de Spinoza, toujours avec l'idée que quelque chose se passe chez le lecteur ou la lectrice qui est plus important que le texte. Ça a donné une première orientation à la manière dont j'ai reçu Spinoza. Pas tellement comme une merveille architecturale faite de concepts abstraits. C'était plutôt, attention, quand vous lisez ce texte, il se passe des choses en vous. Ça, c'était l'enseignement de Pessel. Ça m'a tout de suite attiré. Ensuite, à l'école normale supérieure, à l'époque où je suis entré, Bernard Potra tenait un séminaire qui a duré une quinzaine d'années de lecture continue de l'éthique.
Qui a marqué des générations d'étudiants, ce séminaire.
C'était très lent, mais c'était aussi très audacieux parce qu'en fait, l'idée de Bernard Potra, c'était de, à nouveau, d'explorer ce que Pessel avait théorisé, mais pratiqué aussi, et qui est: quels sont les changements qui adviennent dans notre sensibilité au moment où nous commentons ce texte, où nous lisons ce texte? Est-ce sommes-nous sûrs de bien comprendre? Une approche pas du tout historienne, mais profondément existentielle du texte de Spinoza. Alors, ces deux hommes ont contribué à faire de moi un spinoziste, bientôt relayé par Pierre-François Moreau, qui est devenu mon directeur de thèse, et qui a complété, en fait, cette rencontre avec le texte par une approche, pour le coup, très historienne. Mmh. Et au terme de ce parcours, je me suis progressivement émancipé des uns et des autres pour essayer de définir une approche qui, en quelque sorte, trouve un équilibre entre, je dirais, l'exigence existentielle, c'est-à-dire quand même nous lisons ces textes pour qu'à un moment ça change nos vies, il faut qu'on s'en souvienne à tout instant, et en même temps ces textes ne viennent pas de nulle part, et si on les prend d'une manière trop naïve, on peut leur faire dire n'importe quoi. Donc le Spinoza que je lis aujourd'hui, en fait, a perdu en quelque sorte ses sources françaises, parce que les Italiens sont beaucoup plus historiens et beaucoup plus philologues que la tradition française, donc je suis très proche de mes collègues italiens, et les Néerlandais, eux, ont une vision du paysage du XVIIe siècle qui est beaucoup plus riche, en fait, parce qu'ils sont, évidemment, ils ont accès à une littérature beaucoup plus abondante, dans laquelle ils se plongent. Et donc, entre ces deux traditions, enfin ces trois traditions, italienne, française et néerlandaise, avec un peu les Américains, eh bien finalement, j'en suis arrivé à avoir un Spinoza un tout petit peu différent.
Et à proposer, c'était en 2017, un ouvrage qui s'appelle « Le clan Spinoza, Amsterdam 1677, l'invention de la liberté », toujours aux éditions Flammarion, tous vos ouvrages quasiment sont publiés chez Flammarion, dans lequel vous proposez une biographie romancée et romanesque de Spinoza qui a pu faire frémir les plus orthodoxes. Pourquoi ce choix ?
En fait, c'est pas du tout un choix. C'est-à-dire que je voulais écrire un livre très sérieux sur Spinoza et donc les interactions qui ont présidé à l'élaboration de sa philosophie. Dans le titre, il y a un geste fort. Le clan Spinoza, ça veut dire à l'arrière de ce nom Spinoza, il n'y a pas un homme, il y a un clan. Et pour décrire des interactions aussi complexes que, je dirais, les échanges entre un médecin anatomiste, un chimiste, un métaphysicien et un mathématicien, la langue académique, le mode d'écriture universitaire ne sont pas adaptés. Parce que, en fait, si vous voulez vous exprimer dans cette langue que je parle couramment et que j'écris par ailleurs, je veux dire, je fais des articles scientifiques dans des revues, si je décrivais comme ça les interactions que je viens de dire, j'en viendrais à dire des choses fausses. Alors que, en utilisant des procédés romanesques, j'arrive à tenir une ligne qui est suffisamment subtile pour faire en sorte que mon lecteur, ma lectrice, comprennent des choses par eux-mêmes que je n'ai pas vraiment dites, mais que je fais percevoir grâce à un travail sur les sources, grâce à un travail d'expression qui fait que petit à petit, vous allez voir naître la philosophie de Spinoza sans avoir quelqu'un qui serait Maxime Rovert qui vous expliquerait lourdement comment réellement ça s'est fait.
Alors comment ce livre a-t-il été accueilli parmi les spinozistes universitaires ?
À ma très grande surprise, très bien. C'est-à-dire je m'attendais à ce que les universitaires grincent des dents. En réalité, ils ont été sensibles au travail de synthèse. C'est quand même un livre de 500 pages qui est très exigeant. Et je pense que mes collègues, alors à nouveau plutôt les Italiens, les Néerlandais, les Américains, mais je trouve que les Français ont bien réagi aussi, tout le monde a été sensible à cet effort pour décrire tout un monde, pour être sensible au fait qu'il y a des échanges interdisciplinaires dans ce monde et pour trouver une manière de raconter ces échanges d'une manière sourcée.
Хоть бы постучал.
Мне показалось, что здесь кто-то разговаривает.
Тем более.
Были гости?
Ну-ну.
Здорово ты за них взялся.
Qui est venu te voir?
C'était une jeune femme qui est morte depuis déjà 10 ans.
Ce que tu as vu, c'était la matérialisation de la façon dont tu te représentes cet être. Et quel est son nom?
Ariane.
Bon, alors je vais te dire, ça s'est manifesté après que nous ayons fait une expérience. Oui, nous avions agi sur la surface de l'océan en employant un faisceau serré de rayon X.
Mais est-ce que c'est...
Je te fais remarquer que tu as eu de la chance. Cette femme que tu as vue appartient à ton passé. Et si tu avais vu apparaître devant toi quelque chose que tu ne connaissais pas, une chose que tu aurais pensé, imaginé...
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Et il est certain que l'océan a répondu au rayonnement dense par un autre rayonnement grâce auquel il a pu sonder nos cerveaux et dont il a extrait quelque chose qu'on peut appeler des îlots de mémoire.
Mais reviendra-t-elle ?
Reviendra, ne reviendra pas. Et si c'était ça le contact qu'on attend depuis si longtemps, hein ?
La nuit, c'est le meilleur temps ici. Elle nous rappelle vraiment la Terre par je ne sais quoi.
Il faut coller sur le ventilateur des bandes de papier. L'embruissement fait croire à celui des feuilles.
Du Brésil à la Russie, que venons-nous d'écouter, Maxime Rovert ?
C'est un extrait de Solaris, qui est un film sublime d'Andrei Tarkovsky, et qui raconte comment des astronautes, depuis une station spatiale qui leur sert à observer un mystérieux océan, essaye d'entrer en contact avec cet être dont il devine qu'il est pensant, et même qu'il les fait penser, et même, c'est ce que raconte l'extrait, qu'il les fait halluciner des présences en fonction de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et pour résumer en fait le propos du film, il y a un moment, peu après l'extrait qu'on vient d'écouter, où l'un d'eux dit « Les hommes demandent un contact, ils n'ont besoin que d'un miroir ». Je crois que le travail que j'essaye de faire sur les interactions est une exploration de ce que Tarkovsky pointait comme ce travail du miroir. C'est-à-dire que, au lieu de chercher, je dirais, l'absolu dans un au-delà, j'essaye de montrer comment des interactions extrêmement locales et d'ailleurs descriptibles c'est-à-dire pas complètement délirantes, peuvent nous aider à mieux comprendre les situations dans lesquelles nous vivons, à mieux comprendre justement l'émergence de la vie elle-même, de la pensée elle-même, et je dirais à orienter notre pensée et donc nos modes de vie d'une manière plus fructueuse, plus gratifiante. Donc Solaris, on a tendance à voir ce film comme une sorte de, je dirais, de film de science-fiction mystique. Mais à mon sens, il est ni de la science-fiction au sens où il décrit le monde dans lequel nous vivons, ni mystique au sens où il suffit d'aller au bord de mer un jour de vent et d'observer, je dirais, le mouvement des vagues pour voir de ses yeux vus exactement ce que montre Tarkovsky dans le film. C'est-à-dire, il y a quelque chose quand même de beaucoup plus grand que nous, de beaucoup plus grand que l'humain, qui est en train d'agir, qui fabrique en fait de l'existence. Et je dirais, se donner à soi-même des repères dans la vie qui sont un peu plus grands que l'humain, y penser régulièrement, encore une fois, se situer dans des coordonnées qui sont pas seulement nos coordonnées sociales qui nous sommes dans la vie, je dirais, dans notre famille, dans notre cercle d'amis, bref, dans nos milieux humains, mais aussi se référer à ces forces de très grande ampleur et parfois de très longue durée qui passent à travers nous. C'est aussi une manière de faire de la philosophie.
Il y a quand même quelque chose de mystique dans ce que vous dites.
J'ai du mal à m'identifier au terme de mystique parce que mystique, d'abord, ça suppose la sortie d'une institution religieuse. Donc, moi, ce que j'essaie de pointer, c'est plutôt l'existence, même à l'intérieur des institutions, de quelque chose qui leur échappe. Dans le livre « L'école de la vie » qui vient de sortir, ce que j'essaie de décrire, c'est pas une école idéale. Ce sont des interactions qui fonctionnent à l'intérieur d'une structure institutionnelle qui peut-être dysfonctionne, qui peut-être est insatisfaisante, qui peut-être est consacrée au contrôle. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'interactions chaotiques qui fabriquent du savoir.
Mais alors, que fait la philosophie que le cinéma ne fait pas, par exemple? Quelle est la spécificité du travail philosophique par rapport à cette interrogation autour des interactions?
Alors, nous, philosophes, d'abord, on passe par le langage, alors que le cinéaste utilise évidemment un très grand nombre de procédures qui sont spécifiques, pas seulement la prise de vue, mais le montage, la bande son, enfin il y a tout un travail qui est très complexe et qui mobilise un très grand nombre de sens. Et je dirais toute une sémiologie qui chez nous est réduite aux mots. À vrai dire, aux mots, je dirais, en scène, parce qu'encore une fois, nous avons deux modes d'expression principaux. L'un est le mot écrit. L'autre, c'est quand même l'échange oral. Faire de la philosophie, on le voit ici, c'est ce que nous sommes en train de pratiquer à Delvendrette, ça passe aussi par l'oralité, beaucoup. Mais malgré tout, nous parlons. Nous sommes des êtres qui passons par un travail du langage pour transformer les mots en concepts. Cela se fait par, je dirais, une rigidification de nos procédures linguistiques autour de définitions. Un mot, chacun l'utilise comme il veut. Un concept, non. On va s'entendre tous les deux pour dire que on va utiliser tel ou tel concept.
Par exemple, interaction, c'est un concept pour vous.
Par exemple, interaction est un concept et on va se mettre d'accord pour dire qu'une interaction est un échange circulaire entre deux termes dont nous n'allons pas préjuger la nature. Simplement, on va dire A, B sont en interaction quand ils échangent entre eux de manière circulaire. L'action de l'un peut encourager ou entraver celle de l'autre, mais l'interaction, c'est ce cercle qui se met en place entre les deux. Voilà un concept qui, une fois défini, ne supportera pas que vous l'utilisiez n'importe comment. Quand on fait plusieurs concepts à la fois, c'est-à-dire qu'on rigidifie plusieurs mots ensemble, ils vont eux-mêmes, je dirais, un peu comme si il s'agissait de roues d'engrenage, ils vont s'emboîter et nous amener progressivement à penser des choses que je dirais, par association libre, nous ne penserions pas. Il y a une mécanique du concept qui prend le pas et qui, en quelque sorte, nous oblige. En quelque sorte, nous prend le guidon des mains et nous mène un petit peu au-delà de ce que nous aurions voulu penser, un petit peu au-delà de ce à quoi nous croyons et qui nous amène à penser au-delà de notre propre expérience. Là, on entre, je dirais, dans le travail presque autonome de l'abstraction, où parfois on n'est plus sûr même de quoi l'on parle, on n'est plus sûr de ce à quoi ça correspond dans l'expérience, mais en réalité, ça bouge, exactement comme dans le film de Tarkovsky, ça bouge en dessous sans que nous ayons à y toucher. Il y a une métaphore que j'ai pas encore utilisée dans un livre, mais qui finira par arriver et que je vous livre comme une métaphore du travail du concept. C'est ce que j'appelle la baleine sous le bateau. L'intellect, c'est le bateau. Nous sommes des marins, nous savons comment ça marche, nous actionnons les voiles et le gouvernail. En dessous, un animal, peut-être, en tout cas quelque chose de mystérieux, que nous ne contrôlons pas, nous suit par jeu. C'est la baleine sous le bateau. En fait, nous n'avons aucun contrôle sur elle, mais elle, elle joue à nous suivre. Donc nous pouvons diriger le bateau à bâbord ou tribord, essayer d'orienter notre vie et rester en lien avec la baleine, cette chose, cet inconnu en nous, pour faire en sorte que ça suive, pour faire en sorte que justement, entre les interactions intellectualisées que sont les concepts et la baleine sous le bateau, il y ait aussi des interactions, même si elles sont mystérieuses.
Et c'est comme ça que vous travaillez, que vous écrivez ?
Profondément, c'est-à-dire que quand j'écris, je suis sur mon bateau. C'est-à-dire, je suis un homme du concept, j'ai reçu une formation pour ça, donc voilà, je caque mes voiles, je tire mes cordes et j'essaye de faire en sorte de penser. Et puis, régulièrement, je regarde en dessous et je vérifie que ça suit. C'est-à-dire, est-ce que mon expérience suit ? Est-ce que ça correspond à ce que je vis ? Et c'est pour ça que, par exemple, je m'inspire beaucoup de travaux de sociologues, Bernard Lahire, Francis Château-Renaud, Hartmut Rosa, Eva Illouz, qui sont des gens que j'aime, que j'admire, dont je cherche fréquemment les avis et dont je lis les livres, parce que eux, pour le coup, sont très en prise avec, je dirais, la réalité de l'expérience. Eux ont des méthodes qui leur permettent, pour ainsi dire, d'étudier l'animal.
C'est la sociologie.
C'est la sociologie. Donc,
c'est ce qui manque à la philosophie ?
En tout cas, en tant que métaphysicien, moi j'ai besoin des sociologues pour que, de temps en temps, je vérifie à quelle distance je me trouve de l'expérience telle que eux l'étudient. Nous, métaphysiciens, nous sommes très très haut dans l'abstraction. C'est un privilège que nous avons. Et nous ne faisons pas n'importe quoi dans l'abstraction. On a beaucoup, au XVIIIe siècle, ri de Descartes parce qu'on considérait que l'abstraction était finalement une rêverie, une fantaisie. Pourtant, Descartes était le penseur de la modélisation. Et il me semble que c'est là l'une des premières approches de ce que j'appelle le travail de l'abstraction. La modélisation, ça consiste à simplifier la réalité du monde pour avoir les concepts rigides dont je parlais tout à l'heure, et pouvoir se retrouver un peu en porte-à-faux par rapport à soi-même. Donc il me semble que la philosophie peut s'alimenter à la fois de la sociologie par son rapport, je dirais, au terrain, et de l'abstraction la plus échevelée pour, encore une fois, ne pas perdre son privilège qui est de fabriquer des concepts abstraits qui nous éloignent de nous-mêmes.
Une politique sans coup de menton et sans naïveté, c'est le credo d'Édouard Philippe, le Premier ministre, à l'ouverture du débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale cet après-midi. Des pesticides dans les trois quarts de nos logements, l'ANSES nous alerte sur tous les antipuces, anti-moustiques et pesticides de nos plantes d'intérieur. Et puis, le Nobel de médecine décerné aujourd'hui à des Américains et un Britannique pour leur recherche sur la privation d'oxygène dans nos cellules. Concrètement, cela pourrait faire avancer la lutte contre le cancer. De la pluie au nord, du soleil au sud, la météo à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
C'est un extrait du journal du 7 octobre 2019, le journal de 18h présenté par Amélie Perrier sur France Inter. On y entend l'attribution des prix Nobel de médecine qui, selon vous, je crois Maxime Revers, incarne les grands mouvements du savoir. Quel rapport entretenez-vous avec l'actualité ?
Alors, on a choisi cet extrait pour illustrer le fait que l'actualité, ça n'est pas un fait objectif. L'actualité, c'est le présent dans lequel vous choisissez de vivre. Donc choisir son actualité, considérer soi-même ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est de l'ordre de l'actu ou ne l'est pas, ça me paraît fondamental dans une époque, je dirais, de surinformation. Et alors, j'avais envie de parler des Nobel parce que les prix Nobel, en fait, il y a quelque chose d'un petit peu grotesque dans le fait d'attribuer des prix aussi rares à des chercheurs, alors que, bon, les chercheurs sont très nombreux, il se passe beaucoup de choses. Mais ce que j'aime bien, c'est que, pour une fois, pendant ce mois d'octobre, les médias donnent une actualité, c'est-à-dire une visibilité médiatique, à ce qui en réalité va faire l'histoire de demain, qu'on apprendra à l'école, et qui sont par exemple les grandes révolutions scientifiques, les grands mouvements intellectuels, les grandes innovations, même poétiques. Louise Gluck vient d'avoir le prix Nobel de littérature, et c'est quelqu'un dont on n'entend pas parler d'habitude, et qui, à mon avis, participe de l'actualité d'un présent choisi, d'un présent plus long. Alors, ça veut pas dire, là j'ai pris l'exemple des savoirs, mais ça veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à des mouvements sociaux, à des difficultés.
Oui, justement, vous avez un rôle en tant que philosophe à jouer dans ces mouvements-là?
Alors, personnellement, la manière dont je pratique la philosophie se trouve plutôt dans ces savoirs un peu fondamentaux. C'est-à-dire que je me considère plutôt comme un métaphysicien, même si je fais de l'éthique. Mais je fais de l'éthique, je dirais, à un peu les pieds dans de la métaphysique, dans qu'est-ce que c'est que les interactions, comment est-ce qu'on peut contourner la question des individus pour décrire d'autres mouvements qui définissent l'humain. Donc ça, c'est quand même très abstrait. Travailler de cette manière-là, ça, en quelque sorte, ça vous tient à distance des événements qui se déroulent, je dirais, jour après jour, semaine après semaine. Donc, la manière dont je considère l'implication de ce travail de la philosophie, c'est qu'elle se trouve en quelque sorte en souterrain de ces mouvements sociaux de surface. Ça ne veut pas nécessairement privilégier la profondeur, comme ça, scénarisée, comme si c'était, je dirais, le nec plus ultra. C'est plutôt que c'est une question de rythme. L'actualité a ses rythmes. Le quotidien, on l'a entendu dans l'extrait, ça a son rythme, ça a une certaine manière de parler, une certaine manière de se rapporter au temps. La philosophie telle que je la pratique, elle est dans un temps plus long, où ces événements n'apparaissent pas vraiment, et où on travaille en fait sur des plus longues durées. Et quand on travaille sur les plus longues durées, encore une fois, le présent auquel on se réfère est tout à fait distendu. Il y a des choses qui disparaissent, et des choses qui se construisent. Et dans l'école de la vie, j'essaye de montrer comment les professeurs, en fait, sont tous dans ce travail de longue durée. D'ailleurs, les professeurs le savent. Et c'est en s'inscrivant, en acceptant, en fait, d'appartenir à un présent qui est plus long, qui n'est pas celui des entrepreneurs, qui n'est pas celui des politiques soumis à un système électoral qui les remet en campagne en permanence, qui est un présent lent, un présent long, le présent de ceux qui grandissent, le présent de ceux qui construisent l'avenir, mais sur des générations entières. Quand on se réfère à ce présent-là, on sait que l'on travaille de manière politique parce qu'on travaille sur le cœur de la société elle-même. Donc il y a quelque chose dans la philosophie qui est critique par définition, qui est politique par définition, et c'est pour cela que, en tant que philosophe et en tant qu'enseignant, j'ai le sentiment d'avoir prise sur ma société sans nécessairement en parler.
Merci beaucoup Maxime Robert d'être venu parler de votre travail ce matin. L'école de la vie érotique de l'acte d'apprendre, c'est votre dernier livre aux éditions Flammarion. On se quitte avec une dernière chanson, Einstein on the Beach de Philip Glass. Pourquoi ce choix?
Parce que c'est un bon exemple de la loi de l'abstraction. On les entend chanter des nombres et vous allez voir comme c'est beau.
On l'écoute. France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de l'instant archive, comme tous les vendredis. Aujourd'hui, la philo dans le rétro, c'est Suran qui vient vous parler de ses nuits de veille dans cette archive de 1989.
Vous croyez avoir la radio?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
Émile Cioran.
Si le mot nostalgie, ça a un sens, c'est le regret d'avoir quitté une ville comme ça, et même d'avoir quitté mon village. C'est, pour moi, c'est dû pourquoi c'est une ville importante. Parce que c'est là que j'ai subi le grand drame de ma vie, ce qui a duré plusieurs années, et qui m'a marqué. Alors, pour le reste, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai élaboré, toutes mes divagations, trouve l'origine dans ce drame. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. Pour moi, c'est les nuits de Sibiu. C'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Je sortais vers minuit, vers une heure, et je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. Dans une ville, c'est le silence total, la province. Etc. Et pendant des heures, je me promenais dans les rues, comme une sorte de fantôme. Et tout ce que j'ai pensé, tout a été élaboré, si vous voulez, pendant ces nuits. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier livre, qui est en roumain, qui s'appelle Pecul mi disperi, et sur les signes de désespoir. C'est un livre que j'ai écrit à 22 ans, qui était une sorte de testament. Parce que je pensais qu'après, j'allais me suicider. Mais j'ai survécu pour une raison très précise. C'est que je n'avais pas à pratiquer un métier. Parce que je ne pouvais pas. Et ça, c'est très important. Comme je ne dormais pas la nuit, comme je me promenais dans la ville, mais j'étais bon à rien pour la journée, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas pratiquer un métier. Je ne pouvais pas être professeur. Parce qu'on ne peut pas, quand on veille toute la nuit, on ne peut pas aller faire le pitre devant des élèves, etc., parler des choses qui ne vous intéressent pas, etc. Et pour moi, ces nuits de Sibiu, c'est ça l'origine de ma vision du monde. Je me rappelle que j'avais 20 ans, et un jour, ça c'est aussi c'est un grand moment de ma vie, mon père étant prêtre, n'est-ce pas, etc., ma mère n'était pas croyante, curieusement, ou à cause de ça. Et elle était beaucoup plus indépendante d'esprit que mon père. Mais je me rappelle, ça c'est un événement qui s'est passé pour moi, c'est extraordinairement important. J'avais donc 20 ans, peut-être un peu moins. Et un après-midi, il n'y avait que ma mère à la maison. Il était 2h de l'après-midi, ça, je m'en souviens parfaitement. Je me jetais sur le canapé, je dis, je n'en peux plus. Et ensuite, ma mère m'a dit, si j'avais su, je me serais fait avorter. Et ça m'a fait une impression extraordinaire, mais pas négative. Au lieu de me révolter ou de comme ça, j'ai eu une sorte de sourire, je me rappelle. Et ça a été aussi une sorte de révélation. Donc, je suis le fruit d'un hasard, c'est aucune nécessité. Et ça a été, d'une certaine façon, une sorte de libération. Mais vous voyez, ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Et ma mère, curieusement, elle a lu des choses que j'ai écrites en roumain, mais elle ne savait pas le français, elle ne savait que le hongrois. Et elle a toujours lisé ce que j'écrivais et elle a plus ou moins accepté. Mais mon père était très malheureux parce qu'il avait la foi, mais en fait, ce n'était pas quelqu'un de fanatique, pas du tout. C'était son métier d'être prêtre. Mais tout ce que j'écrivais le mettait mal à l'aise et il ne savait pas comment réagir. Mais ma mère comprenait ça. Et alors, c'était qu'au début, je méprisais ma mère. Mais un jour, elle m'a dit, pour moi, il n'y a que Bach. Bach. Et ça, à partir de ce moment-là, quand elle m'a dit ça, j'ai compris que je lui ressemblais. Et effectivement, j'ai été d'elle pas mal de défauts, mais aussi quelques qualités. Mais c'est des révélations qui marquent une vie. C'est idiot de parler de ses parents, mais en fait, ça a un sens malgré tout.
Merci beaucoup, Émile Sioran, et qui sait, à bientôt. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Avril Poignant-Legoff, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Valérie Lavalard. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. À la veille des élections américaines, on parlera de Donald Trump et de la démocratie américaine. On sera notamment avec Pascal Angèle. On sera aussi en duplex avec le philosophe américain Matthew Crawford. Et j'en suis très heureuse. Tout le programme à découvrir en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et nous, on se retrouve lundi, 10h, en direct bien sûr. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster grâce à l'appli Radio France. De manière à écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez, quand vous ne l'entendez pas, en direct. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.